Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
La rencontre Barrette-Durocher.
Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti du tunnel. Par contre, le train de la santé est magané. Puis il est magané depuis plusieurs années.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la conférence de presse. En fait, le tout début de la conférence de presse du premier ministre François Legault hier après-midi à 14h. Et cette phrase-là, on est sorti du tunnel, ça a fait sourciller, pour ne pas dire sursauter, plusieurs personnes. Parmi elles, Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Quel drôle de déclaration pour commencer sa conférence de presse.
Ben oui, c'était étonnant parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans le tunnel, là, mais complètement, là. Tu sais, je sais pas à quel point on voit même la lumière au bout de ce fameux tunnel, parce que, tu sais, premièrement, on sait plus il y a combien de cas de COVID par jour, là, parce que on n'a pas plus de tests PCR. Donc, déjà, il y a des données qui manquent. Puis bon, c'est pas grave parce qu'on le contrôle par les hôpitaux. Mais quand on regarde le nombre de décès chaque jour, il y a plus de décès que des gens qui sortent de l'hôpital. On s'entend que les gens qui sont décédés dans les hôpitaux. Donc, ça veut dire que, tu sais, je suis pas en santé publique, mais s'il y a plus de décès qui sont dans les hôpitaux que de gens qui quittent, c'est qu'il y a des gens qui rentrent encore, tu sais. Et je trouvais la donnée, tu sais, on était à 700 lits de disponibles il y a quelques semaines. Nous sommes à 3200 présentement de lits où il y a des cas COVID. Alors, tu sais, le système de santé, on tire l'élastique de partout. Ça, il y a des élastiques qui ont pété aussi en cours de route. Ça fait que nous dire qu'on est sorti du tunnel, moi, j'ai de la misère avec ça pour plusieurs raisons, Sophie. Une, parce que je me demande, est-ce qu'on est en train de nous faire accroire des choses? T'sais, cette affaire de nous dire ça va bien quand ça va pas bien, là, on n'est plus capable de le prendre comme individu. Je pense que là, on est comme à bout de tout ça. Et pour moi, ce qu'on vit présentement, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font cette analogie-là, c'est une convalescence. C'est-à-dire qu'on rentre peut-être dans une période de convalescence dans le sens que Omicron a contaminé tellement de gens jusqu'à maintenant qu'on se dit que là, bon, ben, ça sera moins à chaque jour parce que la grande partie de la population a eu la COVID, a ses trois doses, et on sait que les trois doses, on va pas à l'hôpital nécessairement et tout ça. Mais il reste que, tu sais, quand on est à l'hôpital, puis on a une opération, une chirurgie qui requiert une hospitalisation, ben on a toutes sortes de soins, et à chaque jour, on va nous enlever un soluté, on va nous enlever une sorte de pilule. Et finalement, quand on décide, des fois, on sort pas la bonne journée parce qu'il y a des complications, et quand enfin on sort de l'hôpital, ben on n'est pas guéri, là. Tu sais, quand on ouvre la porte de l'hôpital, si tu viens d'avoir une chirurgie, puis ça fait une semaine que tu es à l'hôpital, tu t'en vas pas chez vous en criant « Oh, wow, ça va bien, puis je vais aller prendre un café chez des amis. » On retourne à la maison avec plusieurs consignes. Tu sais, vous devez demeurer couché la deuxième semaine, peut-être que vous allez être capable de marcher trois heures par jour. La quatrième semaine, peut-être que vous allez pouvoir commencer à forcer, mais si ça va pas, on arrête tout, et ça se peut que vous soyez obligé de revenir à l'hôpital, c'est des complications, tu sais. C'est ça, une convalescence. Fait que moi, hier, j'aurais aimé mieux entendre dire on commence une convalescence où on s'attend à ce qu'il y ait des hauts et des bas. Parce que moi, je trouve comme hier, là, j'étais dans mon salon, je dis non, là, faut arrêter de nous faire accroire des affaires comme au début novembre, alors qu'on savait qu'Omicron était à quelque part, nous dire, pas début novembre, fin novembre, début décembre, on va faire un gros party à Noël, on va être 20, on va pouvoir donner des becs à grand-papa, grand-maman. Finalement, le 30 décembre, on tire sur la plaque de tout. Je pense qu'un cerveau, comme notre cerveau est rendu à bout, là, on parle de stress chronique maintenant. Mais oui, on peut plus entendre des choses comme ça. On peut plus se faire à croire c'est quoi les indicateurs que nous sommes sortis du tunnel présentement? Je sais pas si tu les vois, mais moi, pas vraiment.
Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que moi, évidemment, on fait dans nos métiers respectifs, toi et moi, on fait plein d'entrevues avec des spécialistes, avec des médecins, et puis on les voit s'exprimer aussi dans les médias, puis sur leurs propres médias sociaux. Puis moi, hier, après la conférence de presse de François Legault, puis ce matin encore, j'en vois pas beaucoup, moi, de spécialistes de la santé qui font des high-fives, puis qui se tapent dans les mains, puis qui ouvre le champagne. Au contraire, ils sont inquiets. Et j'ai vu passer quelque chose, puis j'essaie de le retrouver, je le retrouve pas, donc je vais être obligée de le paraphraser. Mais c'est quelqu'un qui disait, ben bonne chance tout le monde, c'est formidable que vous puissiez aller au restaurant. Je suis très content que les restaurants rouvrent leurs portes, mais il faut que vous sachiez que ça va se faire au prix de « il va y avoir des gens qui vont mourir ». Il va y avoir des gens qui vont mourir parce qu'on va avoir ouvert les portes trop tôt. Et ça, alors que moi, je venais de me réserver des restaurants parce que j'étais très contente que les restaurants rouvrent, tout d'un coup, je me suis sentie hyper mal à l'aise. Pourtant, je suis triplement vaccinée, Richard est triplement vacciné. Mais je me disais, est-ce qu'on est en train de faire une folie? C'est comme on appuie à la fois sur le frein et sur l'accélérateur.
Ben oui, puis quand tu dis aussi, on est sorti du tunnel, moi, je peux comprendre que les gyms soient frustrés, que tu sais, qu'il y en a qui soient frustrés, parce que, OK, on est sorti du tunnel, mais pourquoi qu'il y a encore des restrictions? Tu sais, cette image-là, c'est comme un retour à une forme de liberté, alors qu'on est dedans. Puis oui, est-ce qu'on va trouver, c'est sûr qu'il y a une pression économique aussi, tu sais, les restaurateurs, en fait, tous ceux qui sont fermés présentement, il y en a qui sont sur le bord de craquer, il y en a qui ont craqué, il y en a qui ont fermé, il y en a qui pensent fermer, il y a de tout, tu sais. On voit aussi que la population, est-ce que la population va bien? Je pense pas. Mais oui. En même temps, je pense, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est de réouvrir pour refermer? Tu sais, toutes les psychologues, psychiatres vont dire ça, c'est des gens bêtes qui font de plus en plus mal à chaque fois. Quand on nous laisse un élan, puis oups, on revient en arrière. Tu vois, hier, je parlais avec un humoriste, puis il me disait, moi, là, c'est la dernière fois, là. Là, ça réouvre, mais si ça referme, moi, je les ai à mon équipe, j'arrête tout pendant 10 ans, je ne peux plus vivre de cette façon-là, parce que c'est trop difficile.
Attends, est-ce qu'il t'a parlé de façon confidentielle ou est-ce que tu peux nous dire c'est quoi son nom?
C'est confidentiel, tout à fait.
Ah, d'accord.
C'est confidentiel, d'accord. Mais je pense qu'il pourrait facilement le dire sur la place publique. Tu sais, parce que
d'accord.
On était dans une conversation, puis les mesures venaient d'être annoncées. Puis il disait, moi, mais je te dirais, Sophie, que c'est assez généralisé, ce message-là, quand même, de, c'est, tu sais, à l'automne, là, tous ceux qui ont réouvert avait l'impression, avec toutes les mesures, les précautions qui étaient prises. En plus, on enlevait même des mesures sanitaires, on allégeait les mesures sanitaires du départ. Ça l'a ouvert les valves. Et je pense que collectivement, on avait l'impression que nous étions sortis du tunnel à ce moment-là, même si personne nous l'avait dit. C'est ce qu'on ressentait, qu'on allait vers quasiment une vie normale. On disait, ben, faudra apprendre avec le virus. Mais on vivait avec le virus. Alors que là, je trouve qu'on vivote plus qu'on est en train de vivre. Et là, encore une fois, on essaie d'ouvrir les valves tranquillement, mais c'est comme si on était échaudé, là. Tu sais, il y a quelque chose, qu'on les ouvre. Tu sais, on les ouvre pour combien de temps? Comment ça va marcher? Là, on a le droit à 4 au restaurant, 2 bulles dans la maison, pas plus que 4. En tout cas, même hier, c'était bon, si on est 8 déjà dans une maison, on doit plus s'inviter souvent. Tu sais, il y avait comme des affaires, la notion de 4 personnes était nommée souvent hier, mais reste que je trouve qu'on est, si on est resté sur notre tapis, oui, on est content pour les restaurateurs, oui, on est content pour les salles de spectacle, les salles de théâtre, les cinémas, tu sais. Oui, on est content pour tous ceux qui participent à ça, mais c'est complexe. Tu sais, je pense que le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus simple présentement à réouvrir. Mais tu sais, les restaurateurs, embaucher les gens, avoir la bouffe dans les frigidaires, au théâtre, rappeler les artistes, répéter à nouveau, tu sais, quelque chose qui aurait dû être fait. Alors, est-ce qu'on va encore leur dire de fermer? Fait que moi, je pense qu'il faut plus donner de cette image qu'on est sorti du tunnel parce que ça a un impact.
C'est une erreur. Oui.
Ça a un impact sur notre santé mentale, Sophie, à un moment donné. Oui, c'était une erreur de parce que sur le reste, il était prudent. Il a dit, faut être mollo. Je pense que ces gens en communication, ils ont dit, faut que tu te dises 5 fois parce que la 5e fois, ça rentre dans le cerveau du monde, là. Mais ça, il l'a dit. Fait que je pense qu'on a retenu ça mollo. Mais mollo, ça veut dire quoi exactement quand on nous dit une chose et son contraire? Fait que moi, j'ai trouvé que c'est une conférence de presse difficile, en fait.
Moi, je comprenais pas. Moi, je ne comprenais pas qu'il commence avec ça. Et puis, donc, on fait une conférence de presse pour nous annoncer des mesures, puis il commence en disant ça. Moi, Richard et moi, on se regardait, on était là, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et c'est assez contradictoire. Et aussi, ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, le premier ministre François Legault a dit, bon, ben, j'entends beaucoup de gens qui disent, bon, qui demandent plus de prévisibilité, là, qu'on puisse avoir des plans plus précis pour les prochains mois. Puis il dit, on peut pas faire ça parce que, par définition, le virus, c'est imprévisible. T'sais, qui aurait pu prévoir que, justement, Omicron serait si fort? Puis je trouvais ça assez étrange qu'ils disent ça, Marie-Claude, parce que, justement, au mois de novembre, fin novembre, quand il nous a dit « on va pouvoir faire le party à Noël à 2025 », lui était en train de nous dire ça, alors que dans le reste du monde, entre autres en Europe, Omicron frappait de plein fouet. Fait que lui nous dit « ah, oh, c'est imprévisible », ben c'est parce que c'est imprévisible pour vous, mais il y a des choses qu'on peut prévoir et que vous n'avez pas faites. Par exemple, l'analyse des eaux usées, je ne comprends pas, alors que l'INSPQ...
Ah, moi, je comprends pas ça.
Je comprends pas ça. L'INSPQ s'est fait demander de faire une revue des différentes études sur la fiabilité de l'analyse des eaux usées. Ils sont revenus avec une revue des différentes études en disant majoritairement c'est efficace puis c'est un très bon indice du taux de contagion. Puis le gouvernement dit, parce que c'est un texte dans le journal Le Soleil, non. Mais malgré les recommandations de l'INSPQ, on n'ira pas de l'avant. On a fait un projet pilote, mais on le fera pas. Pendant ce temps-là, à Ottawa, ils analysent les eaux usées. Dans plusieurs pays d'Europe, on analyse les eaux usées. Le Center for Disease Control aux États-Unis dit on analyse les eaux usées. Même l'Organisation mondiale de la santé recommande d'analyser les eaux usées. Mais au Québec, on n'analyse pas les eaux usées. Excuse-moi, je comprends rien.
Puis à Ottawa, avec les analyses, disait que Omicron, dans le fond, ça faisait quand même un certain temps que c'était déjà arrivé ici. Quand on a parlé du premier cas, il y en avait bien plus que ça. Il le voyait dans les eaux usées. Fait qu'effectivement, tu vois, moi aussi, j'ai eu cette discussion-là. Mais ça me semble que c'est simple à faire, en plus. Comme analyse, t'as même pas besoin de citoyens, là. Tu t'en vas dans des scientifiques qui font ça. Donc, tu sais, puis quand on parle de prévisibilité, là, tu sais, est-ce que c'est pas comme... Moi, je me dis, y a-t-il un chiffre à un moment donné? Tu sais, la santé publique aussi doit avoir des vecteurs pour prendre des décisions. Par exemple, est-ce que... Parce qu'on dit toujours que c'est les hôpitaux, c'est les cas dans les hôpitaux qui font en sorte qu'on a autant de restrictions. C'est notre capacité de soigner, notre capacité d'accueil dans les centres hospitaliers. Donc, est-ce qu'il y a un tableau, genre, quand on atteint tel chiffre, on peut s'assurer qu'on a de la place, donc on peut libérer on peut ouvrir tel secteur d'activité. Tu sais, je me demande sur quelle base que c'est fait présentement, parce que si on regarde les hôpitaux, c'est certainement pas le vecteur décisionnel présentement à 20 personnes de moins par jour, là, tu sais, alors qu'il y a tellement de décès. Moi, j'en reviens pas à chaque jour de voir la quantité de décès de gens qui meurent encore de la COVID. Donc, ça nous met dans une incertitude à quelque part. Parce que moi aussi, je me dis, là, les restaurants, oh, on est super contents, les théâtres, mais est-ce que ça va durer? Tu sais, on y va sur la pointe des pieds, mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce qu'on est encore en train de nous donner de l'espoir?
Et est-ce que c'est raisonnable? C'est-à-dire que oui, on est content que ça ouvre, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'on est en train, au contraire, de faire une grosse bêtise collectivement? Est-ce que c'est trop tôt? Et c'est
mais
vraiment
moi. Mais je vais poser une question, Sophie. Est-ce que ça va mieux présentement dans les hôpitaux que par exemple quand c'était ouvert en décembre là? Tu sais, quand, je veux dire, quand les restaurants étaient ouverts en décembre, les hôpitaux allaient mieux que présentement là. Tu sais, alors que puis on les a fermés, alors que là on les réouvre et la situation est pire que quand on les a fermés, à moins que je me trompe là, mais il y avait pas 3200 lits COVID le 30 décembre là.
Non, ça c'est sûr et certain. Et il y a un autre aspect aussi que je trouve c'est important d'en parler, c'est que on ne comprend pas sur quelle base les décisions sont prises. Je te donne un exemple. Luc Boileau, donc directeur par intérim de la santé publique, donne une entrevue à notre collègue Philippe Vincent Foisy vendredi où il dit les lieux de culte vont être parmi les premiers à ouvrir parce que pour beaucoup de gens c'est un service essentiel. Donc après il fait cette déclaration-là. On est nombreux, moi je l'ai fait sur les ondes de Cube, Richard l'a fait dans des chroniques, bref, on est plusieurs à dire, ben voyons donc, ça n'a aucun sens d'ouvrir les lieux de culte avant d'ouvrir les salles de spectacle. Résultat, hier, il annonce qu'on ouvre les deux en même temps. Ben je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi et mardi? Est-ce que les données de la santé publique ont changé à ce point-là? Est-ce qu'il y a des études qui sont sorties disant les lieux de culte sont un vecteur de transmission, donc on est mieux de les ouvrir une semaine plus tard, parce qu'ils devaient ouvrir le 31 janvier? Non! Tu sens que la seule et unique raison pour laquelle ils ont changé leur plan de match, c'est parce qu'il y a des grandes gueules qui se sont fait aller la mâchoire puis qui ont dit « ça n'a aucune allure ». Donc, on prend une décision éminemment politique, je dirais même à la rigueur une mesure populiste, au lieu de prendre des mesures scientifiques basées sur des preuves. C'est ça qui est choquant. T'sais, moi, je suis bien contente que les salles de spectacle ouvrent en même temps que les lieux de culte, mais c'est basé sur quoi, M. Boileau?
C'est ça. Parce que, bon, si moi, je suis encore très inquiète s'il fallait qu'on recule à nouveau. Oh. Dans quel état on va être? Dans quel état? Tu sais, je recevais à mon émission la semaine dernière la psychiatre Marie-Ève Coton. Puis ça disait, parce que j'ai fait une émission sur comment allez-vous? Parce que moi,
oui, tu nous en avais parlé.
Carré-moilette, c'est ça, tu sais, ça m'a rentré dedans. Puis ça disait, la pandémie, là, c'est comme la guérison d'une maladie mentale. Ça vient en vague, les symptômes partent puis reviennent. Tu sais, t'as dit, il y a comme une amélioration à chaque fois. Quand on nous libère, on s'améliore, mais avant, tu sais, la guérison complète peut être vraiment longue. Quand on revient, on repart, on revient. Puis elle dit, c'est ça une maladie mentale. T'sais, on pense qu'on est guéri, oups, ça revient. Et c'est très difficile à vivre. Puis elle dit, tu sais, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre présentement. Tu sais, j'avais un psychologue, Marc-André Dufour, il dit, ben moi, je trouve qu'on lui fait trop de jambettes. Ça devient, c'est pour le cerveau, le message, il y a comme une chose et son contraire. Fait que ça devient difficile à vivre. Puis, tu sais, la psychiatre dit aussi, nos batteries là sont déchargées présentement. C'est individuellement là, nos batteries sont déchargées, donc c'est difficile à recharger. Fait que dès qu'on a comme quelque chose qui va pas, on revient décharger, donc on perd beaucoup de la motivation, puis on est là-dedans. Donc faut même que le gouvernement, tu sais, on parle beaucoup de santé mentale, puis c'est important d'en parler, puis on n'en parlera jamais assez, mais le gouvernement puis la santé publique doivent aussi penser à notre santé mentale. Parce que quand on nous dit quelque chose, il faut que ce soit appuyé sur des données scientifiques présentement. Ça peut pas juste être pour répondre à un besoin, parce que si on nous l'enlève, le ressac de ça est à chaque fois plus puissant. Le ressac est plus fort à chaque fois qu'on nous enlève quelque chose présentement. Puis moi, je te le dis, je le sens chez plein de monde. Tu sais, je parle à toutes sortes de gens de différents milieux. Et là, c'est comme, ben là, ça va être la bonne. Tu sais, c'est ça, le oui, on contrôle pas la COVID, sauf qu'on contrôle le message. On contrôle, justement,
très bien
la convalescence dans laquelle on est.
Alors, on contrôle pas la COVID, mais on contrôle le message. On va se quitter là-dessus, Marie-Claude. Et, ben écoute, on se reparle demain. Toujours intéressant d'échanger avec toi. Merci beaucoup, Marie-Claude Barrette.
Merci, bye-bye.